le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Nous ouvrirons ce journal avec un nouveau scandale d'évasion fiscale. Plusieurs États de l'Union européenne, parmi lesquels la France, l'Allemagne et le Danemark, ont perdu quelque 55 milliards d'euros à cause d'un vaste montage financier impliquant des traders, des avocats, mais aussi des banques.
La Crimée toujours sous le choc après la tuerie organisée dans un lycée technique.
Oui, hier, un élève a tué 19 personnes avant de se donner la mort. Pour l'heure, le mobile de ce massacre reste toujours inconnu.
L'émissaire de l'ONU pour la Syrie jette l'éponge.
Staffan de Mistura a annoncé qu'il quitterait fin novembre ses fonctions pour raisons personnelles après 4 années d'une mission qui plus que jamais semble relever de l'impossible.
Dans votre édition également, Thomas Cluzel, Jean-Luc Mélenchon est entendu depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre.
Le chef de file de la France Insoumise qui continue de dénoncer une justice à deux vitesses enclenchée contre lui dans le cadre de 2 enquêtes ouvertes par le parquet de Paris.
Le gouvernement s'apprêterait à faciliter la création des péages urbains dans les grandes agglomérations françaises.
Objectif limiter la circulation automobile, mais aussi lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
Et enfin, invité de votre journal aujourd'hui.
Le député de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva, membre du 8e et tout nouveau groupe, né à l'Assemblée nationale, Liberté et Territoire. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, avec l'un des papes de l'intelligence artificielle. Il est le chef de la recherche sur l'IA chez Facebook. Aujourd'hui, il s'appelle Yann Lequin et il co-signe un ouvrage avec Stanislas Dehaene, le psychologue cognitiviste, La plus belle histoire de l'intelligence. On va donc parler un peu du passé, mais aussi beaucoup de l'avenir. Avec lui, l'avenir de notre intelligence.
Merci, à tout à l'heure. L'histoire secrète du casse du siècle, l'enquête révélée ce matin par nos confrères du journal Le Monde, conjointement avec 18 autres médias européens, fait état d'une gigantesque fraude, le plus grand scandale fiscal de l'histoire de l'Allemagne, voire de l'Europe. Au total, pas moins de 55 milliards d'euros ont été subtilisés en 15 ans à plusieurs États européens par des financiers opérant en bande organisée sur les marchés, traders, courtiers, avocats, mais aussi banques et fonds de placement dont certaines des plus grandes institutions financières de la planète ont participé à des degrés divers à ce montage financier inédit, tant par sa forme que par son ampleur. Une collusion d'intermédiaires telle que le directeur de l'administration fiscale allemande lui-même aujourd'hui parle de crime organisé. Alors, cette affaire de fraude et d'évasion fiscale implique aujourd'hui plusieurs pays européens, mais le scandale au départ est venu d'Allemagne. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Tout commence très exactement à Bonn, au fond d'un petit bureau gris de l'administration fiscale.
Nous sommes à l'été 2011, une inspectrice des impôts lit et relit un courrier. C'est une demande de remboursement d'impôts, comme il lui en arrive tous les jours, adressée par un fonds de pension, propriétaire d'actions cotées en bourse. Mais cette demande-là va l'intriguer. Il y en a pour beaucoup d'argent, plus de 54 millions d'euros de remboursement, correspondant à des dizaines de milliards d'euros de transactions, alors que cette caisse de retraite n'a qu'un seul bénéficiaire, un Américain du New Jersey. Elle met au jour un système d'optimisation fiscale que l'hebdomadaire allemand Die Zeit qualifie de plus grande fraude fiscale de l'histoire européenne, qui a coûté entre 7 et 12 milliards d'euros au seul fisc allemand, 55 milliards à l'échelle de 15 pays européens.
Et puis Ludovic, comme dans toute bonne histoire de casse du siècle, il faut au départ un cerveau, et ici il s'appelle Hanno Berger.
C'est un fils de Pasteur, un ancien haut fonctionnaire du fisc, contrôleur de la bourse et des banques à Francfort, qui va vite se reconvertir en avocat fiscaliste et mener grand train. Hanno Berger est brillant, son portefeuille de millionnaire s'agrandit, ses conseils en optimisation fiscale sont prisés. C'est en 2006 ou 2007 qu'il va trouver un nouveau filon. Il va littéralement l'industrialiser avec l'aide de grands groupes bancaires en pleine crise financière. Et tant pis pour les recettes fiscales de son pays et de tant d'autres. À ces nouvelles recrues qui l'aident à faire monter son juteux business, sa juteuse arnaque, il n'hésite pas à leur dire, ceux qui seraient tentés de penser qu'il y aura moins de crèches ou de maternelles construites en Allemagne à cause de nous, n'ont rien à faire ici.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Alors contrairement aux affaires précédentes d'évasion fiscale, telles que les Panama Papers par exemple, ce scandale ne concerne pas l'utilisation de paradis fiscaux, il consiste cette fois-ci à exploiter une faille de la loi pour duper les États européens qui ont mis en place une taxe sur les dividendes des actionnaires. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Cette technique d'optimisation fiscale consiste à profiter de la souplesse qu'offrent les marchés pour monter des schémas compliqués permettant au final non seulement de réduire la charge de l'impôt sur les dividendes, mais également de le transformer en source de profit.
Oui, alors pour comprendre ce scandale des dividendes, rappelons au préalable deux principes de base. L'entreprise peut verser une partie de ses bénéfices aux actionnaires, ce sont les dividendes, et ces sommes sont taxées par l'État en moyenne entre 15 et 30%. Et c'est à cela qu'un certain nombre d'acteurs financiers s'efforcent d'échapper. La version de base, pour ainsi dire, c'est ce qu'on appelle le cum-cum. C'est une technique d'optimisation fiscale. Autrement dit, elle n'est pas clairement interdite. Elle consiste à transférer de manière provisoire la propriété des actions vers un pays à faible fiscalité au moment du versement du dividende. Résultat, cela permet d'éviter de payer les taxes sur ce dividende. Le vrai propriétaire de l'action et l'établissement qui l'a aidé se partagent ensuite le bénéfice fiscal réalisé. Cette pratique a cours de façon massive, y compris en France. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler la version expert de ce mécanisme, le CumEx, dont il est question plus particulièrement avec cette enquête. Elle consiste plus franchement à extorquer le fisc. On n'est donc plus dans l'optimisation fiscale, mais bien dans de la fraude présumée. Et là, il faut rappeler une autre règle. Dans certains pays, les étrangers peuvent se faire rembourser la taxe sur les dividendes. Et c'est précisément là-dessus que repose tout le système du CumEx. Il consiste à mettre au point des montages où les actions changent de main si vite d'un propriétaire à l'autre, d'un pays à l'autre, qu'il devient dur de savoir qui détient quoi. Et des investisseurs de mèche peuvent ainsi réclamer à l'État le remboursement d'un impôt qu'ils n'ont pas payé. C'est comme ça qu'un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne et le Danemark, les fraudeurs ont pris de l'argent dans les caisses de l'État. En Allemagne, c'est interdit par la loi depuis 2012 et les enquêtes judiciaires ont été ouvertes.
Merci Catherine Pétillon. La réunion d'hier soir à Bruxelles consacrée au Brexit avait été qualifiée de cruciale et comme souvent lorsqu'il s'agit de relever le caractère tout à fait critique d'une réunion, celle-ci s'est finalement soldée par un échec. Les 27 dirigeants de l'Union européenne qui attendaient Theresa May de pied ferme n'ont pas reçu de nouvelles propositions de la première ministre britannique. Ils se sont donc contentés d'acter l'absence de percée dans les négociations sur le Brexit et n'ont pas précisé pour l'instant du moins le calendrier à venir. En l'occurrence, le sommet extraordinaire évoqué pour le mois prochain n'a pas été planifié. Enfin, les 27 se retrouvent à nouveau aujourd'hui pour débattre cette fois-ci des questions migratoires, mais aussi celles liées à la sécurité ainsi que sur l'avenir de la zone euro. Les enquêteurs russes tentent toujours d'établir les motivations du tueur du lycée polytechnique de Kertch en Crimée, Rostislav Rosliakov, 18 ans, étudiant en quatrième année de chimie, qui a tué hier 19 personnes et en a blessé 37 autres avant de se donner la mort. Un massacre sans précédent pour la Russie, qualifié ce matin dans la presse de Columbine russe. Présenté d'abord comme un acte terroriste, les faits ont depuis été requalifiés en meurtre de masse. Les enquêteurs disent désormais chercher si le tueur présumé avait des complices et vérifier s'il a agi sous l'influence d'une personne ou d'un groupe. Un deuil de 3 jours a été décrété par les autorités de Crimée. Alors hier soir, dans cette ville de la péninsule annexée en 2014 par la Russie, les habitants avaient monté un petit hôtel commémoratif sur le trottoir sur lequel ont été déposées de très nombreuses fleurs, ainsi que l'a constaté notre envoyé spécial Claude Bruyot.
Les pleurs étouffées dans la nuit noire viennent rompre les échanges chuchotés entre parents et amis qui n'arrivent pas à quitter les lieux. Entre les fleurs et les peluches, Iliana, qui a fait sa scolarité à côté de l'établissement de la tragédie il y a 15 ans, est venue, elle, déposer un cœur rouge devant l'une des entrées du lycée.
Le frère de ma belle-sœur était dans la cantine au moment de l'explosion. Il est blessé, mais pas trop gravement, ça va aller. Il y a 2-3 ans aux États-Unis, on a eu des cas pareils quand des jeunes, plutôt bons élèves, venaient tuer leurs copains et leurs professeurs. Peut-être que ce garçon, ici, chez nous, a suivi leur exemple. C'est la seule chose que je peux dire.
Avant de mesurer éventuellement le degré réel d'identification morbide d'une jeunesse à une autre, il faudra d'abord éclairer quelques zones d'ombre. Comment, par exemple, un jeune homme seul, selon la version officielle, avec un fusil de chasse, a pu tuer une vingtaine de personnes et en blesser le double en un peu plus de 5 minutes. Les médias russes affirmaient tard dans la soirée que pas un gardien n'assurait son service hier aux entrées de l'établissement scolaire, un lycée technique dont on apprenait également que les portiques de sécurité ne fonctionnaient plus.
Le président Vladimir Poutine se rend aujourd'hui en Ouzbékistan pour une visite censée sceller un rapprochement économique entre la Russie et cette ancienne République soviétique d'Asie centrale. Des accords, d'un montant de 20 milliards de dollars doivent y être signés. Le chef du Kremlin et son homologue ouzbek devraient également donner le coup d'envoi de la construction de la première centrale nucléaire en Ouzbékistan. Une manière pour Moscou de contrer non seulement l'influence de la Chine, premier partenaire commercial aujourd'hui de Tachkent, mais aussi des États-Unis qui cherchent également à renouer leur partenariat stratégique avec l'Ouzbékistan après avoir été expulsé d'une base aérienne en 2005. Même si cela fait plusieurs mois déjà que ce diplomate chevronné avait indiqué vouloir quitter ses fonctions, le découragement ne semblait pas pour autant avoir prise sur lui. Mais hier, après 4 années d'efforts infructueux pour mettre fin à la guerre en Syrie, l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a annoncé qu'il quitterait son poste à la fin novembre. Hier, devant le Conseil de sécurité, il a notamment invoqué des raisons personnel. Marie-Pierre Véro, bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, depuis 2014, date à laquelle Staffan de Mistura avait accepté ce poste, sa mission semblait déjà tenir de l'impossible. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce départ semble au fond acter combien les Nations Unies ont aujourd'hui totalement perdu la main sur ce dossier, en particulier face à la Russie.
Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les initiatives, fait preuve de flexibilité et d'inventivité. Mais en 4 ans, rien n'aura bougé pour le règlement politique du conflit syrien. Deux autres diplomates de haut rang s'étaient déjà cassé les dents sur le dossier. Le prix Nobel de la paix, Kofi Annan, ancien patron de l'ONU, et puis Lakhdar Brahimi, l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères. Et c'est bien, vous le disiez, Moscou qui est le premier pointé du doigt. Depuis 2011, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a opposé 12 fois son veto à des résolutions de l'ONU afin de protéger son allié syrien. La Russie, mais aussi la Chine. Les négociations les plus difficiles, admet Staffan de Mistura, sont celles avec sa propre famille. L'ONU. En jetant l'éponge, Kofi Annan avait déjà mis en cause les divisions au sein de la communauté internationale. S'y ajoutent les rivalités entre les différentes puissances engagées sur le théâtre syrien, l'Iran, la Turquie et bien sûr l'entêtement du régime syrien. La volonté de Bachar al-Assad, le bourreau de Damas, sauvé par l'appui militaire russe, de se maintenir à tout prix au pouvoir. C'est d'ailleurs le désaccord sur son avenir à la tête de la Syrie qui coince depuis le début et l'impuissance de l'ONU dans une guerre qui a fait plus de 360 000 morts. Dévaster un pays et déplacer ou exiler la moitié de sa population éclate face à la loi du plus fort. Jamais la Syrie n'a souhaité négocier sérieusement à Genève ou Vienne. Le processus sous l'égide de l'ONU qui a connu 9 cycles infructueux et qui doit composer avec un processus concurrent lancé début 2017 à Astana par la Russie, la Turquie et l'Iran. Même la dernière initiative de Staffan de Mistura, une constituante, reste bloquée par l'absence de volonté de Damas d'admettre des membres de l'opposition dans la discussion politique.
Merci Marie-Pierre Véro. Sous le titre « Voici le chef de l'équipe d'exécution », la presse turque a publié ce matin des images retraçant les mouvements à Istanbul d'un officier des services de sécurité proche du prince héritier saoudien et présenté donc comme le chef de l'équipe d'exécution soupçonné d'avoir assassiné le journaliste Jamal Khashoggi. Alors la publication de ces nouvelles images tirées des caméras de vidéosurveillance survient au moment où la pression monte sur Riyad. Ce matin, le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il ne se rendrait pas à la 2e édition du Davos du désert prévue la semaine prochaine à Riyad. L'an dernier, l'édition inaugurale de cette foire aux investisseurs avait tourné au triomphe du prince héritier MBS. Mais cette année, après les défections de différents dirigeants d'entreprises et autres représentants d'organisations internationales, il semble qu'elle constituera davantage un plébiscite anti-MBS. De l'incident judiciaire à la passe d'armes politique, Jean-Luc Mélenchon est entendu depuis ce matin en audition libre dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Le leader de la France insoumise est visé par 2 enquêtes préliminaires portant l'une sur des emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen et l'autre sur ses comptes de campagne de la présidentielle 2017. Après avoir revendiqué hier un tempérament, je cite, méditerranéen, pour sinon justifier, du moins expliquer les perquisitions houleuses qui ont déclenché l'ouverture d'une procédure pour violence par le parquet de Paris, Jean-Luc Mélenchon a renouvelé ce matin sa défense d'un parler fort, tout en dénonçant une justice à 2 vitesses enclenchée contre lui. On l'écoute.
C'est de la police politique qui est faite pour intimider, car ces gens ont passé des heures et des heures chez nous. Alors ils ont aspiré nos téléphones, des fois ils sont partis avec nos affaires. du siège du parti, ils ont emmené tous les disques durs, au motif que ça s'était pas bien passé au siège du Mouvement. Alors oui, il y a eu violence. 4 plaintes sont déposées par mes amis, car il y a eu une bousculade dans laquelle ils ont été précipités à terre. Bon, voilà, oui, il y a eu des violences. Mais moi, je les mettais aimablement sur le compte de l'agitation du moment. Bon, là-dessus, j'apprends que le parquet prétend porter plainte contre nous. Alors, évidemment, je dis à mes amis, ben, portez plainte, parce que vous voyez bien qu'il y a une escalade judiciaire dans le cadre d'une opération de pression. On veut nous faire peur, nous intimider. Voilà. J'ai vu que M. Castaner m'a recommandé de répondre aux questions qui me sont posées. Ben oui, lui devrait aussi répondre aux questions qui ne lui sont pas posées, puisqu'elles ne lui sont pas posées. Pourquoi le siège de La République En Marche, dont il est le dirigeant, comporte un stock d'armes, par exemple? Quelle réponse apporte-t-il au juge qui l'accuse d'avoir utilisé des fonds qu'il n'aurait pas dû utiliser, etc., etc., etc. À moi, on me fait des perquisitions, on fouille mes locaux et on brutalise mes assistants. Lui, apparemment, on lui demande rien. Il y a donc bien une justice à deux vitesses dans ce pays. Voilà, on est dans un moment comme celui-là.
Jean-Luc Mélenchon ce matin devant les locaux de la police judiciaire à Nanterre, des propos recueillis par Willy Moreau. Les retraités qui, après la hausse de la CSG, s'apprêtent à subir un coup de rabot sur leur pension sont à nouveau appelés à manifester aujourd'hui contre les choix budgétaires du gouvernement à l'appel de 9 syndicats et associations. Bientôt des péages à l'entrée des grandes villes françaises. Cette possibilité offerte aux élus sera inscrite dans l'avant-projet de loi d'orientation des mobilités. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, l'a confirmé ce matin. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
Paris pourrait donc rejoindre la liste des capitales à péage comme Londres ou Stockholm.
Oui, si Paris le souhaite, rien d'obligatoire aux villes de choisir si elles souhaitent installer donc à ses portes un péage pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. C'est le but affiché à noir sur blanc dans le texte qui sera donc présenté début novembre au Conseil des ministres. L'argent récolté, pas plus de 2,50 € à chaque entrée pour les voitures dans les villes de plus de 100 000 habitants, jusqu'à 5 € dans les villes de 500 000 habitants et 10 € pour les poids lourds. Cet argent ira aux collectivités locales qui seront libres de définir le périmètre des zones soumises à péage et les tarifs donc plafonnés. Ces péages, une demande d'élus locaux enfin encadrée par l'État, disait ce matin sur France Info Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires.
En fait, c'est une décision qui relève des collectivités. C'est pas l'État. Donc c'est, moi, je vais pas vous dire ici ou là, il faut en mettre. C'est les collectivités qui décident. Il s'avère que depuis 2007, la loi donne la possibilité aux collectivités de le faire. Ça existe déjà. Mais que cette loi, elle n'est pas du tout encadrée. Et donc, qu'est-ce que propose la ministre du Transport, Elisabeth Borne? C'est d'encadrer la chose. Ça dépend des cas de figure. Vous pouvez avoir des cas de figure où, pour lutter contre la congestion, c'est-à-dire les embouteillages, pour lutter contre les émissions, à ce moment-là, un président de collectivité décide de le faire.
Première réaction, pas forcément enthousiaste des pro-voitures, argument social pour Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association.
Ces péages urbains qui seraient encore une fois une demande de payer pour les Français, ça vient après des tas de mesures qui font que la mobilité en France avec une voiture, ça devient juste insupportable.
Londres l'a fait. Milan en Italie l'a fait, Stockholm l'a fait, pourquoi on n'y arriverait pas en France?
Alors j'y suis allé à Londres récemment, vous savez qu'il n'y a pas une voiture à moins de 60 000 euros dans les rues. Est-ce qu'on veut cette société-là en France et dans Paris ou dans d'autres villes? Moi je suis pas sûr parce que c'est les hyper riches pour le coup qui vivent à Londres et avec les voitures qui vont bien. Moi j'ai pas trop envie de cette société et j'ai envie qu'on puisse continuer à avoir une voiture quand on est étudiant ou pas en France. Ouais, je crois que c'est important cette mobilité-là.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne dit plus non à des péages à condition qu'une partie des recettes de ces péages finance le passage à la gratuité des transports.
Merci Véronique Robérot. Comme chaque jeudi, à présent, l'interview politique. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse, membre du collectif écolo-transpartisan, mais aussi du 8e et tout nouveau groupe né à l'Assemblée nationale Libertés et Territoires. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi en studio pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Une première question, monsieur Acquaviva. À quoi va servir donc ce nouveau groupe à l'Assemblée nationale, composé de députés déçus de La République En Marche, des élus de centre-droit, des radicaux, mais aussi d'anciens socialistes. Quelle est au fond votre ligne politique commune?
Eh bien, ce groupe répondait à un besoin. Nous sommes regroupés à travers une convergence. Nous avons évidemment des origines diverses, mais nous avons longtemps discuté pour se mettre d'accord sur des valeurs. Et ce n'est pas le moins important en termes de justice sociale, notamment par rapport à ce qui se passe au niveau du budget, en termes de transition écologique, en termes aussi de respect de l'équilibre des pouvoirs, dans un moment où on essaie d'enlever des pouvoirs au Parlement à travers la révision constitutionnelle, et puis en termes aussi de vision de l'architecture territoriale de la République. Donc, nous assumons une vision très nettement décentralisée de l'organisation de la République, qui peut aller jusqu'à à l'autonomie de la Corse, mais aussi à l'affinement de ce qu'on entend par droit à la différenciation, parce que c'est une question aussi de finances publiques, c'est une question aussi de gestion de compétences quotidiennes au service des populations, puisqu'il y a beaucoup de compétences qui sont assumées par les régions aujourd'hui, mais qui ne sont pas suffisamment financées, notamment à travers une réforme fiscale. Et je crois que c'est quelque chose qui correspond à un besoin. Là où on parle de verticalité et de condescendance vis-à-vis des territoires qu'ont fait les conférences de presse de l'ensemble des associations d'élus locaux, il est important que dans l'hémicycle, cette voie-là émerge.
Une question de Sophie Delpont.
Jean-Félix Acquaviva, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez aussi au collectif transpartisan Accélérons la transition écologique et solidaire, avec donc des membres de 6 groupes parlementaires, des membres de 6 groupes sauf de la France Insoumise, qui parlent d'affichage. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, je pense que là où on peut travailler de manière transpartisane sur des urgences, notamment, et l'urgence écologique qui est aujourd'hui incontestable, je crois qu'il faut le faire. Après, libre à la France insoumise de ne pas participer pour les raisons qu'elles sont les siennes, mais en tout cas, ça ne doit pas nous empêcher aux autres, ceux qui ont une liberté de conscience et d'action, d'agir sur un sujet qui, inévitablement, doit demander des mesures concrètes et une trajectoire concrète qui commence ici et maintenant.
Qu'avez-vous voté sur le glyphosate ?
Bien écoutez, je n'étais pas là pour l'amendement de glyphosate parce qu'il est impossible de Corse d'être là à 3h du matin. Et là, évidemment que le fonctionnement de l'Assemblée nationale pose question sur ces questions-là, de poser des amendements à 3h du matin aussi important. Par contre, nous avons voté contre le projet de loi Egalim parce que justement, l'amendement de glyphosate n'avait pas été accepté.
Mathieu Orphelin, lui, avait voté pour le projet en première lecture.
Tout à fait.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là de cohérence?
Je dis simplement qu'il y a forcément des contradictions liées à l'appartenance à la majorité, que nous n'avons pas en tant que députés qui étaient alors non inscrits autonomistes de Corse.
À propos de ce qui se passe, la perquisition au siège de la France Insoumise, la position de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce une police politique selon ses termes, pensez-vous qu'il y a eu un problème sur la façon dont ces perquisitions ont eu lieu? Êtes-vous solidaire de Jean-Luc Mélenchon sur ce point?
Si on essaie d'avoir la tête froide, évidemment qu'on peut se poser la question de la façon dont la justice opère sans rentrer dans le fond du dossier et en respectant l'indépendance de la justice. Il est évident que le moment de l'interpellation et la manière dont elle... Et de la manière dont elle s'est faite pose question lorsque, quelques mois avant, sur l'affaire Benalla, on a vu une vraie fausse perquisition. Donc évidemment qu'on ne peut pas avoir de poids, deux mesures en la matière. Et il est normal qu'en démocratie, qu'un citoyen, un élu puisse critiquer cela. La justice n'est pas exempte de critique dans son fonctionnement, dans la forme, au-delà du fond du dossier. Et ensuite, il y a eu les réactions qu'on peut estimer comme excessives, évidemment, qui, en retour, je crois qu'en la matière, lorsqu'on veut prôner l'exemplarité et la transparence de tous côtés, il faut être véritablement sur un fil du rasoir, la justice aussi. Donc si elle avance dans ce dossier en étant beaucoup plus sereine, ça serait quand même normal qu'elle le fasse de la même manière concernant l'affaire Benalla.
Pour vous, la question de l'indépendance de la justice est posée?
Je crois
vous
qu'il
la remettez
est
en cause
normal.
Sur ce dossier-là.
Je dis simplement que l'indépendance de la justice est un principe que personne ne conteste. C'est un mode de fonctionnement institutionnel qui existe. Simplement, cela n'empêche pas que dans la pratique quotidienne, il puisse y avoir des déviations, des façons de faire qui puissent poser question. Et il est normal qu'il y ait la critique de la critique aussi.
À propos des violences qu'on voit dans cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Jean-Luc Mélenchon parle de tempérament méditerranéen. Est-ce que c'est un argument à mettre sur la table?
Je crois qu'il faut raison garder. On peut avoir des images qui choquent, et puis au niveau du monde qui vit beaucoup au rythme des réseaux sociaux, évidemment, après on peut se poser des questions sur les images qui sont véhiculées, mais il est évident qu'il y a eu de la violence de part et d'autre, à mon avis, dans ce dossier et dans cette action-là, lors d'un moment de perquisition où il y avait une tension évidemment palpable. Donc après, c'est à la justice de faire le tri, justement. Mais de toute façon, il y a des questions de fond qui demeurent. Il y a le fond du dossier qui doit se poursuivre. Là, je n'ai rien à dire sur l'enquête en cours. Mais la façon de faire, eh bien, elle peut poser question. Et je crois que en cette matière-là, lorsqu'on a vu encore une fois l'affaire Benalla se dérouler sous nos yeux avec des commissions d'enquête qui n'ont pas bien fonctionné, je crois qu'on ne peut pas agir d'une façon d'un côté et ne pas le faire de l'autre aussi.
À propos du nouveau gouvernement, après le remaniement, la nomination de la nouvelle secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon, qu'en pensez-vous, ancienne de Danone, qui a eu des propos en juillet dernier sur l'huile de palme? Elle qualifiait l'huile de palme de meilleur ingrédient pour le lait infantile.
Je crois qu'en matière de contradiction, On n'en est pas à la première nouvelle. Donc évidemment qu'il y a eu le changement que l'on sait avec le départ de Nicolas Hulot et la nomination de François de Rugy. Nous souhaitons la réussite de François de Rugy parce que par ailleurs, nous avons eu de bonnes discussions concernant l'appréhension des territoires de la Corse en particulier. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'il y a des contradictions. On l'a vu pour le glyphosate. On le voit encore maintenant au niveau du fonctionnement du ministère. C'est un sujet qui est un sujet d'actualité brûlante, la question environnementale, qui va certainement s'inviter et qui va s'inviter grâce au collectif transpartisan dans les projets de loi à venir. Donc il faudra bien gérer ces contradictions de la part de l'exécutif.
Est-ce que votre collectif demande la démission de cette nouvelle secrétaire d'État à l'écologie?
Moi personnellement, je n'ai demandé la démission de personne. Notamment. Je crois que c'est de la responsabilité du Premier ministre, du Président de nommer qu'ils veulent donc dans le gouvernement. Mais bien entendu que nous serons très attentifs sur les politiques en la matière.
Merci Jean-Félix Acquaviva, député donc de Haute-Corse, membre du groupe Liberté et Territoire, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Et merci à Sophie Delpont. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Pluvieux et parfois orageux sur les Pyrénées orientales, partout ailleurs du soleil. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 18 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.